Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup de votre présence parmi nous pour ce temps de rencontre, de lecture et de rencontre avec Maya Tran. Bonjour à vous, ma chère Maya, et bienvenue. Bienvenue parmi nous pour ce temps donc qui va commencer par un temps de lecture et puis qui se poursuivra par un petit temps de discussion entre nous, discussion à laquelle on invitera bien sûr le public à participer. Vous êtes écrivaine, vous êtes traductrice, on aura peut-être l'occasion de redire un petit mot de cette double casquette, puisque ça a peut-être une importance aussi dans votre rapport à la langue et à l'écriture. Vous avez publié donc ce premier texte qui s'intitule « Petit traité de taxidermie » aux éditions Agulot. Je cherche le nom de la traductrice, puisqu'il paraît important de la citer, donc traduit du suédois par Marie-Hélène Archambault. Un texte qui s'intitule donc « Petit traité de taxidermie » dans lequel vous nous menez dans une maison au fin fond de la campagne dans laquelle s'installent deux personnages qui s'appellent Bjorn et Vera. Et on va suivre finalement au fil du livre le quotidien de ces deux personnages dans leur rapport à la nature, dans leur rapport aux animaux. Des jours qui passent comme ça au fil des saisons, il y a une sorte d'aspect très... très circulaire, un rapport au temps très important dans ce livre. Une vie faite de promenades, de lectures, de visionnages de certains films. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et puis petit à petit, on se rend compte que cette maison, elle a finalement une intensité, une vibration particulière, puisque au fil de leur vie dans cette maison, ces deux personnages vont voir revenir, s'intéresser à un certain nombre de personnages qui ont vécu au fil des années dans cette maison, et notamment ce fameux taxidermiste, cet intendant en taxidermie dont on comprend à la fin du livre qu'il fait référence à une personne réelle, mais on va y revenir bien sûr pendant cette conversation. Un livre qui parle donc de l'esprit des lieux, de l'esprit des maisons, qui parle du rapport au temps, qui parle du rapport à la sauvagerie, à la nature, et puis qui est surtout un beau texte de poésie qui est plein de mystères et d'énigmes. Donc on va rentrer dans le mystère de votre écriture, chère Maya, d'abord avec un temps de lecture que vous allez nous proposer, et puis on aura une petite discussion à l'issue de cette lecture. Voilà, je vous laisse la parole.
Merci. Sans l'avoir encore jamais vue, ils la reconnurent tout de suite. Oubliée, oublieuse, elle aurait pu rester ensevelie dans sa torpeur s'il ne s'était égaré en forêt, s'il n'avait pas échoué sur ce chemin caillouteux qui ne menait nulle part ailleurs qu'ici. La maison avait sommeillé jusqu'au jour où, franchissant la crête, ils virent qu'il lui appartenait, réveiller la réveillère. Pas au point de l'appeler mère, mais elle devint leur maison. Sur la route, ils manquèrent de renverser un chevreuil, virent son dos velu disparaître dans la forêt telle une pensée folle. Un épais silence régnait, comme dans une forêt primaire de pins à garde à vous, dit Vera, en attente de devenir mât sur un navire qui ne sera jamais construit, dit Bjorn. Une forêt à traverser à la course, mais pour échapper à quoi? La première nuit, ils entendirent gronder les entrailles de la maison, virent le village se refléter dans les nuages et colorer le ciel d'un jaune cireux, éclairant le ciel toute la nuit, puis vint le jour qui le consuma. La seconde nuit, les fenêtres sifflaient. Ils fermèrent les portes et tirèrent les rideaux. Le ciel était complètement clair. La troisième nuit, des pas résonnèrent dans l'escalier. Ils cherchaient quelque chose, savaient si bien ce que c'était qu'ils auraient pu le dessiner dans leur sommeil, même si cela n'avait pas de nom, restant aussi vague qu'un rêve qu'on ne peut oublier ni se rappeler. Marcher d'une pièce à l'autre, main dans la main, Vera fermait parfois les yeux. « Ça va, » disait Bjorn. Le train était un poumon qui fit taire la vie à sa disparition. Mais si l'on vient d'ici, on a l'isolement en partage. On est sur ses gardes pour avoir la paix. Ou bien on vous a tellement laissé en paix qu'on est sur ses gardes. Björn était rentré à la maison avec un livre de bord. Nous allons consigner tout ce que nous aurons vu ou entendu. Ils trouvèrent un plan de terrain dont ils disposaient, qui les contraignait par la même. Ils le mesurèrent au pas, comptèrent 8 pommiers et demi. Tous avaient porté des fruits, sauf le plus petit. Les pommes gisaient en tas. Ils les rassemblaient dans les paniers sur la terrasse. Ça fermentait sous les arbres. La nuit s'évaissait le sanglier. Quand ils sortaient le matin, le terrain sous les arbres était retourné. Des coups de feu retentissaient dans la forêt. Les chevreuils bramaient de peur ou de désir. Qu'est-ce qu'il y avait d'attirant dans la chasse? C'était Shell, le mécano, qui tirait. Il avait l'œil. Il l'ingérait. Le sanglier vivait en eux. La maison tenait ferme, tellement figée qu'on aurait pu se demander si elle vivait. Ils étudièrent l'histoire de la région. Jusqu'à peu, apprirent-ils, on allait encore à l'église à la rame. 3 lacs étaient répertoriés sur la carte, maintenant réduits à des mares, conservant un vague souvenir de leur époque glaciaire. Mais dans la forêt, les moraines poussaient plus loin la mémoire. En creusant en bas du champ, là où le ruisseau souterrain faisait du brouillard, le paysan Bachtil avait trouvé de l'eau saumâtre. Véhara ferma les yeux et vit bleu. Du bleu sortirent 3 images. La première, un daguerreotype fané, montrant un homme âgé, la barbe à 2 pointes, c'était l'intendant. La deuxième, un groupe de personnes sortant d'une baleine. La troisième, une baleine sortant d'un bâtiment. Véhara entra le regard dans l'intendant, loin dans l'image. « Attention, souffla-t-elle, j'arrive. » L'automne est le temps de la chute, le temps de repos, sans reculer devant le souvenir des morts. Mais le savoir est une chose. Véhara tenait la peur dans ses mains, craignait tout ce qu'elle ne pouvait pas voir. Petit oiseau, dit Björn, si différente. La peur, un animal secret dans son eau trouble. Comme il était douloureux de n'être jamais libéré de soi-même, combien de stratégies pour trouver un répit, avoir prise, tendre la main vers la réalité, saisir un mot bienveillant, un sourire, une étreinte. Durée de jour, 10 heures et 12 minutes selon l'almanach des travaux agricoles, grand temps pour vous de prendre menu vivre purgatif, né sous le signe de scorpion, d'un commerce agréable aux gens, disposition favorable aux navigations maritimes et lacustres, ainsi que pour le négoce. Ils aménagèrent une nouvelle pièce. Björn le jugea grand style. Ce serait notre cabinet de lecture et notre fumoir. On y entassera nos bouquins, on va faire simple. Jens vint installer le piège lumineux. À la nuit tombée, ils sortirent, Björn et lui, dans le noir avec un drap qu'ils agrafèrent au pistolet sur la façade de la maison. Quelques heures plus tard, ils rapportaient des bocaux pleins. Des phalènes, dit Björn. Jens dit qu'il fallait se procurer d'un détecteur de métaux. Le marécage d'en bas devait être un ancien chenal vers la mer. Regarde les sites anciens. Chaque colline porte la trace des ancêtres de quelqu'un. Chaque hauteur un château, chaque mamelon un tombeau. Mais qu'allons-nous laisser derrière nous, des verras? Bouteilles et bassines en plastique, bottes en caoutchouc, prothèses dentaires, des choses pour lesquelles il n'y aura même plus de nom. Le lendemain, Björn posa sur la table de cuisine une bouteille de vin vide et du papier. On va écrire. Ils écrivirent. Nous, Björn et Véhara, avons vécu dans cette maison où notre ami Jens a capturé puis relâché un bombyx disparate. Sur quoi Björn arracha 3 lattes de plancher. Quand ils eurent déposé le message dans la bouteille dans le sol et cloué la dernière planche, Jens leur fit observer que le papier n'était pas sans acide. Dès qu'ils ouvriront la bouteille, ce sera comme le fresque dans Fellini Roma. Ils verront le papier se désagréger sur leurs yeux avant même d'avoir pu le lire. Et tout près d'Athènes, on venait de trouver les restes de 80 hommes enchaînés après la conspiration de Cylon,
sur le chantier d'un stade, un jet de pierre de notre époque contemporaine, et tout ce qu'ils avaient laissé derrière eux, c'était des crânes fracassés. Une histoire qu'ils n'avaient pas choisi de raconter comme ça. Et Véala pensa à Moana et Asta, comment elles étaient restées tout un printemps à boire café après café autour de l'appareil à cassette, car Asta devait témoigner. Et un jour, Asta avait enregistré par-dessus les bandes l'une après l'autre. Non qu'elle ait renoncé à raconter son histoire, c'était juste qu'elle ne voulait pas raconter celle-là, ou pas encore, et qui pourrait la blâmer? Les trois photos, l'intendant, les gens dans la baleine sortant de la maison, triptyque d'une tentative d'un honnête effort. L'intendant, à l'automne de sa vie, assis à sa table de travail, devant un iceberg de papier, une noix séchée et un crâne béant, la barbe comme deux défenses, penché sur la paperasse, attachant maintenant la barbe derrière la nuque, trempant sa plume dans la peau d'encre, la pièce s'élargit. Une tête tsansa ouvre grand les yeux. Apprenaient-ils quelque chose, les Indiens rivaros, quand ils tuaient leurs ennemis et réduisaient leur crâne à la taille d'une orange? Pas le crâne, marmonne l'intendant, on l'escalpait. Sten Andersson avait été le premier dans la maison. Ensuite vinrent la famille Oskarsson, Bengt et Berit Eriksson, Björn et Vera, mais avant, juste après Sten Andersson, l'intendant. L'intendant, après Vera, était né le jour même où le professeur Setterstedt, sur une crête de Finnmark, tomba sur un exemple de la Phanerogame Braia alpina, c'est-à-dire un genre de cardamine parfaitement conforme à celle précédemment trouvée par le professeur Friis, mais en plus velu et plus branchu. 2. Un exemplaire de Chrysotoxum arcuatum, petite cirfe aux mouches guêpes, quasi disparue depuis. Les chemins de l'intendant et du professeur devaient se croiser 2 à 3 fois, notamment unis par un commun intérêt pour la surnommée cirfe, et peut-être ne serait-il pas absurde de supposer que cette dernière, dans la mesure où elle fut tuée au moment même où l'intendant inspira pour la première fois, c'est là d'une certaine manière un lien secret entre ce trois, tout ce que vit reconnaît la mort. Par centaines, elle jonchait la plage, transparente avec des filles violées à l'intérieur. Le garçon en prit une en pleine main, la soupesa, il savait ce que c'était. Il la rapporta à la maison dans son seau, la nourrit des guis de pain et d'eau. Mais au bout d'un jour, elle commença à sentir. La mort l'a emportée, dit le prêtre. Elle habite où, la mort? Dans la main de Dieu, creuse donc. Où la mort habite-t-elle? Il la cherchait dans un crapaud gonflé, au moyen d'une incision bien nette sur le ventre. Il la cherchait dans une poule, d'un os à l'autre, la cherchait dans l'œil luisant d'un chardonneret qui le fixait sans expression. Qu'est-ce qui périt dans le vivant? Le prêtre, tout sauf l'âme, si elle est pure de tout péché. Les animaux ont tous été sauvés dans le grand bateau de Noé, bien sûr, et tout le reste a disparu, enfin tout sauf notre Église, car elle existait même avant le péché. Le savoir-faire du fils de tailleur, fit les coteaux, le conduisit à des études de zoologie et par la suite à un voyage de collecte dans la calotte nordique où, non, il ne voulait pas en parler, balaya d'un geste en lançant un regard fugace vers la dame en vert, assise en face de lui à la table de salon, dans la chambre de Gammelstrand où il louait depuis son arrivée à Copenhague à Madame Jorkobsen, une impécunieuse mégère, soit dit en passant. Ton calme. Que veux-tu dire? Ce calme incroyable quand tu restes assis des heures à tripoter cet hyménoptère mort. Oh, des bionnes, c'est juste une apparence. À l'intérieur, ça bouillonne comme chez tout le monde. La pompe était réparée. Vera trouva des noms à elle pour des lépidoptères de bionnes. Il faisait des promenades nocturnes hors des sentiers battus, après la ferme de Bathilde et le terrain de Léana, en suivant le ruisseau caché jusqu'à la forêt, respiraient lourdement. Quand ils fermaient les yeux, ils entendaient des bruits d'animaux, avançaient prudemment en terrain inconnu. Quelqu'un les observait. Peut-être que c'était Berit Eriksson, leur dit Bertil plus tard, ou bien Marit Almgren dans la maison jaune, au tournant après la ferme de Stern. Vera s'étonna de l'évidence avec laquelle Bertil nommait des vivants et les morts dans la même phrase. Et tous ces vestiges des temps anciens, plus nombreux que nous, ces pierres mémorielles de nos aïeux, de leurs campagnes militaires et de leurs morts, ou seulement de leurs morts, leurs us et coutumes autour de 900 et des poussières effrayèrent Ibn Fadlan, l'écrivain voyageur mandaté par le calife de Bagdad, surtout pour la dimension relationnelle et l'hygiène, voir la vie du brigand de Carl Tanner dans Game of Thrones, ô fier héritage. Oui, dit Bjorn, un nombre infini de raisons de douter de l'excellence de l'espèce humaine. Comme les animaux ont plus tordu, dit Alma, tandis qu'ils étaient assis enveloppés comme des chrysalides sur la véranda dans une pénombre allant fraîchissant, parlant de leur amie Livia et de son âme sœur, rencontrée sur le site meetyoursoulmate.com, un vrai Adonis, raffiné en plus, mais tout avait tourné au vinaigre dans leur réalité partagée. Tu me contredis tout le temps. Pas du tout. Tu vas bien. On s'imagine être compris, avait dit Livia, qu'il existe en dehors de nous un être qui comprend notre tentative de formuler notre existence, mais c'était comme si elle avait quelque chose de pâteux dans la bouche quand elle avait essayé de parler avec l'âme sœur. Comment peux-tu être aussi confuse, s'écriait-il, quand il ne rageait pas contre des amants supposés sous son lit. Tu sais ce qui t'attend, disait Alma. Quitte-le à temps. Un jour viendra où tu seras contente de ne pas être l'agneau de son loup. Au départ d'Alma, la maison se tut. Et quand Bjorn partit collecter des spécimens, elle commença à raisonner. Parfois, quand Bjorn n'était pas là, Vera avait l'impression qu'il n'existe plus. Il ne suffisait pas de lui parler au téléphone. Ce n'était pas assez pour une relation humaine. Attention, disait-elle, à ce que nos muscles du cœur ne se détendent, ne se relâchent sous le poids de la graisse, selon les mots de chanteur français, là. Tu parles, dit Bjorn, avoir le cœur saignant comme un steak aplati. En plus, c'est l'affaire de 3-4 semaines au maximum, et nous ne pouvons pas vivre d'air et de eau fraîche. Quand l'intendant rencontra la dame en vert, devinait Vera, son cœur à elle devait être encore jeune et sans gras. Elle s'avança vers lui dans un bruissement de soie, comme à travers les sables de désert, et sa robe était vert colibri dans cette chambre le plus reculée de Stormgade 10, où trônait la dernière pièce conservée de l'ancien musée Vormianum d'Olevorm. La curiosité, une grande racine de Carcus robur, à savoir chêne, implantée dans une mâchoire d'Ecus caballus, autrement dit cheval, pas tout à fait à sa place au musée d'histoire naturelle, et placé de ce fait un peu à l'écart, juste après l'herbarium à poissons de Forschkohl et la collection de coquillages de Spengler, comme pour nous rappeler où nous retournerons. La dame considéra la curiosité, ils la considéraient ensemble en ce mois de septembre, il avait fait une découverte. Septembre et la robe verte se reflétaient dans la globe en verre, abritant la relique. Il se tenait courbé derrière et la voyait, tout restait encore à dire. La demoiselle était-elle perdue? Tout restait encore à dire. Ils parlèrent poisson. La demoiselle savait-elle à quoi ressemblent des branchies de l'intérieur? Comment on écorche un dauphin? Que les yeux des flétans n'ont pas toujours été asymétriques, elle ignorait. Sur quoi elle avait pris sa main, pour comme l'observer, comme pour examiner dessus la réfraction de la lumière, c'était inconvenant, elle le laissa faire. Aussi lisse et légère qu'il se l'était représenté, tandis que la sienne était blette et moite comme une anguille, pensa-t-elle furtivement, bien qu'elle ne s'y connaisse guère en poisson. Elle ne s'y connaissait pas en poisson, mais sous les mers, les abîmes et des monstres s'y cachent aussi. La sirène de Freak Show de P.T. Barnum, moitié singe, moitié poisson, ou la truite à fourrure, achetée par une dame sur un marché de Grande-Bretagne, et le basilic qui vous tue d'un regard, si bien que personne n'a pu témoigner de sa véritable apparence. La gêne Hanover, un monstre toujours bon à avoir sous la main quand tout vacille, qu'elle avait pu observer à la fenêtre de poissonnier Jensen. La demoiselle ne doit pas croire tout ce qu'on lui raconte. Nous vivons une époque de progrès. Rien d'impénétrable qui ne devienne tôt ou tard un objet de science. Dès lors, tenir, manier le couteau, car tout finit en pourriture. Quand l'intendant rencontra la dame en verre, la mère n'était qu'un marécage de secrets à percer, mettre à jour et conserver. Aucun monstre n'est logé, l'assura-t-il, et l'homme était plutôt rassurant, malgré le regard errant en loin, la courte barbe dévoilant un menton fuyant, c'était irrésistible. Elle ne voulait pas savoir comment elle en était arrivée là, traverser le détroit avec ses vagues si hautes qu'elle se demandait si elle ne l'avalerait pas. Mais pour sûr, comme une honnête femme, lui dit sa mère, en l'ornant le ventre de Caroline, déjà rebondie, ma gosse, tu seras intendante des pêches. Une photo antérieure de l'intendant avec une courte barbe. On le voit décontracté, assis les jambes croisées, une main sur le genou, l'autre nonchalamment posée sur une pile de feuillets au contenu incertain. Une certitude. La vie animale à laquelle nous appartenons n'obéit qu'à deux grandes nécessités, un accès approprié à la nourriture en même temps qu'un air respirable. La fugacité de la vie, on devait la prêcher sans cœur. Il le savait. C'est pourtant ce qu'ignore complètement Caroline, mère, qui, depuis le décès de Carolina, sa fille mort-née, a viré au noir. Noir, le visage éteint. Noir, la tenue de deuil. Elle ne veut plus entrer dans l'atelier de naturalisation, ne veut plus voir son fils, ne veut plus être touchée, même habillée, ne veut plus collaborer. Comment ranimer la dame en vert ? Oui, comment ? L'intendant de dire, regarde là un appareil à ventiler, ouvre maintenant ce volet, sens le courant d'air frais qui pénètre et chasse le miasme délétère. L'installation n'a pas l'effet recherché. Sur l'air, oui, mais pas sur la dame. Pourtant, quand l'intendant au soir de sa vie se penche sur son pupitre, la tsantsa le fusillant de regard depuis sa vitrine et le sang bouillonnant en lui la nuit, quelque chose cherchant à se frayer un chemin dans sa gorge avant d'éclater en taches sur la peau avec une odeur d'ail, alors son bel aplomb baisse le pavillon. Ce qui tenait droit va se fausser et vice-versa. Hautement improbable la fiabilité de la science, hautement improbable l'effet du ventilateur, hautement improbable ce que les morts ont appris aux vivants. Non, non, balait-il d'un revers de la main. Il ne veut pas y penser. Il veut voir son Léviathan. La baleine bleue n'est pas bleue mais grise. Ne peut vivre sans eau, mais pas non plus sans air. Lorsqu'elle remonte à la surface, on voit que malgré l'absence de toute extrémité ou presque, elle présente les caractéristiques d'un animal terrestre. Retient son souffle 60 minutes d'affilée, vit 100 ans, nage à 20 nœuds. Elle était énorme. Elle fondait la mer comme une bûche, comme un bâton de Moïse. En cette année 1865, elle vint s'échouer dans la baie d'Askim par une blême journée d'automne. Deux gaillards la trouvèrent qui prévinrent l'intendant. Il savait quoi en faire. L'intendant vit la baleine et sut d'emblée quoi faire. Il allait conserver le colosse, engranger le monstre. La science aurait trop à perdre si l'on gâchait l'animal. Non, quel qu'en fût le prix, il allait remonter à terre la bête entière pour s'en faire le maître. Et les deux gaillards se mirent aussitôt en peine de la tuer. Prenez deux remorqueurs, au besoin trois, vos l'amarrez ferme. Pour le trajet, comptez un jour ou deux. Une fois arrivé à Lindholmen, levez la carcasse avec des grues, hisse afin qu'au sixième jour après sa mort, elle puisse être exposée au regard, sans mutilation, à quai. La baleine, animal terrestre, à la fin des fins. Et il dit, tu seras appelé Balenoptera carolinia, d'après le nom de ma femme, puisqu'après due confrontation de spécimens avec un squelette de Balenoptera musculus au Riksmuseum de Stockholm, j'ai pu constater qu'il s'agit d'une espèce inconnue à ce jour, ce qui pour sûr ne saurait qu'augmenter la valeur de cet animal bien heureusement sauvegardé. L'animal bien heureusement sauvegardé, une baleine, sous sa forme nouvelle, visita Stockholm et Berlin. On buvait le café dans la baleine, on y venait déviser des choses et d'autres. On absorbait gâteaux et boissons dans les entrailles de Léviathan recouvertes de papier peint fleuri, non pas comme des victimes sacrifiées aux flots déchaînés par les marins épouvantés, ni comme des prisonniers d'un ventre de poisson puni d'avoir détourné leur visage du Seigneur, voué à séjourner trois jours durant dans la panse infernale, mais comme d'honnêtes et banals visiteurs qui avaient payé leur écho de 5 centimes pour être exact, café compris.
Merci Maya.
Merci.
Et félicitations pour cette lecture. C'est encore plus beau quand c'est lu par vous. On va essayer de plonger un peu dans cet univers très singulier, un premier livre très très singulier dans sa langue, dans ses motifs, dans sa manière de parler du réel en y inscrivant comme ça d'autres dimensions. Peut-être question très simple, la lecture débute par la maison, le texte débute par la maison, elle se termine par la baleine. Et puis au milieu, il y a ce personnage du taxidermiste, ces images, ces éléments du livre, lequel arrive en premier? Ils arrivent en même temps? C'est d'abord la maison qui arrive dans l'écriture de ce livre, comme le lieu à la fois du présent et le lieu du passé. Comment est-ce que... Quelles sont les premières images qui président à l'écriture du livre?
Je ne sais pas, peut-être les deux en même temps. Je ne saurais pas les séparer, mais je pense que l'image de... Enfin, quand j'ai découvert cette image de quelqu'un qui entre dans cette baleine et l'image de la maison, peut-être que c'est à peu près... oui, ça, je ne saurais pas les séparer temporellement.
Et vous la découvrez comment, cette image?
Ah ben, le truc, c'est que je ne me souviens plus. Je ne sais pas. J'ai vu quelque part, mais je ne sais plus. Je sais qu'il y a longtemps, enfin, peut-être une quinzaine d'années, mais... Mais c'était une, je pense, dans un journal quelque part. J'ai vu l'image, ou juste l'image, peut-être.
Et cette image-là, elle déclenche chez vous quoi, une surprise, une interrogation? Elle ouvre une énigme? Qu'est-ce qui vous amène ensuite à la porter finalement comme une matrice de ce livre-là, de ce premier livre?
Oui, mais je pense que c'est un peu comme pour Malm, que ça devient comme une fixation presque, que l'image est tellement envahissante. Enfin, c'est une des images, c'est donc l'image quand la baleine est en train de sortir de l'immeuble. Et là, c'était parce qu'il fallait, à un moment donné, après tout ce projet, il fallait le déplacer. Et donc, du coup, mais vu qu'on avait tout monté à l'intérieur de l'immeuble, on a dû enlever les briques pour pouvoir le sortir. Et c'était une image qui, je pense, que ça touchait quelque chose presque archétypique, en quelque sorte. Un peu comme... et puis, le fait de rentrer, parce qu'après, donc, j'ai vu d'autres photos, et donc, il y a une photo qui est incroyable... Où on voit tout un groupe de gens en train de effectivement boire le café à l'intérieur de la baleine, et puis l'autre avec un cheval en train de transporter la baleine à un autre bâtiment.
Et ça a juste éveillé ma curiosité de savoir, mais qu'est-ce qui a précédé tout ça? Comment on est arrivé là? Et qui est cet homme qui a eu cette idée d'être le premier homme au monde, de sortir une baleine et de la monter comme ça, un peu projet de Herzog, personnage un peu comme ça.
Et donc ensuite, vous avez fait quoi? Vous avez cherché des éléments de compréhension? Vous avez retourné les archives? Vous avez fait comment pour essayer de trouver des réponses à vos questions?
Eh ben, j'avais découvert assez vite qu'en fait, il n'y avait quasiment rien écrit sur lui. Donc ça, c'est toujours bien, pour, enfin bien et pas bien. Mais, et par contre, il avait les choses que lui, il avait écrites. Il a fait un récit très, très un peu pompeux sur tout ce projet. Et d'ailleurs, ça a aussi été traduit en français avec des photos magnifiques. Ça existe, monographie comme ça de lui de l'époque. Et donc, puisqu'il était quand même naturaliste, il y a beaucoup de documentation autour de ce projet naturaliste. Mais par contre, de sa vie, il y avait beaucoup, beaucoup moins. Et c'est ça qui m'intéressait en quelque sorte. Et donc, j'ai su qu'il était fils de tailleur. Donc là, j'ai bien que pu comprendre que c'est de quelqu'un qui venait vraiment de... qui n'était pas une famille riche. Enfin, c'est quelqu'un qui a fait... on dit en suédois qu'on fait un voyage de classe, c'est-à-dire qu'il essaye de monter, d'avoir un statut. Et en même temps, c'est quelqu'un qui échoue en permanence, qui se trompe, parce qu'il n'est pas vraiment... c'est pas une vraie naturaliste, en quelque sorte. C'est quelqu'un... Donc je vais découvrir que c'est quelqu'un très ambitieux, un homme ambitieux, comme tous les hommes ambitieux, il est impitoyable. Et là, je vais découvrir qu'il va faire des choses qui sont plutôt questionnables.
Par exemple ?
Eh ben, il y avait une notice, quand il monte là, dans la calotte du Nord, il est assez jeune, il a peut-être 18 ans, Et j'avais lu des correspondances comme quoi il se fait renvoyer et il va s'enfuir à Copenhague. Et en fait, il s'est passé, il y a eu un scandale, il a commis un scandale. Enfin, je ne sais pas si je vais rentrer dans les détails, mais il a vraiment eu un scandale et il s'est enfui au Danemark. Et il est resté pendant 2 ans avant justement de pouvoir retourner. Et pour moi, ça devenait un peu, je me disais, mais c'est ça en fait, vraie histoire. Plutôt que la baleine, c'est une excuse pour autre chose, quoi.
Alors, ouais. ce qui est beau dans le livre, c'est que finalement, cette figure du taxidermiste, elle apparaît à un moment donné, alors que le début de l'histoire nous emmène à la vie de Vera et de Björn. Et finalement, on se rend compte que cette maison, elle est à la fois le temps présent de ce couple-là qu'on va suivre, et en même temps, une espèce de profondeur. Elle contient en elle-même la profondeur du temps, l'héritage, les gens qui y ont vécu. Comment vous envisagez justement cette espèce de mise en poupée russe ou presque de mise en abîme de l'histoire du taxidermiste? Vous aviez envie de l'inscrire dans un présent où quelqu'un retrouve cette histoire-là? Comment vous l'envisagez, cette chose-là?
Peut-être que c'était peut-être un peu l'image que quand on s'installe comme ça à la campagne, c'est avec une sorte d'idée de permanence qu'on va être dans quelque chose qui ne change pas. Et qu'en fait, ces deux-là vont découvrir que c'est tout le contraire. C'est qu'en fait, de rentrer en contact avec une sorte d'impermanence constante et que le temps finalement est très relatif. Surtout à la campagne, parce que quand on parle avec des gens, ils vont se mettre à parler de quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans, comme si c'était aujourd'hui. Et on va aussi découvrir dans une maison qu'il y a une histoire, mais l'histoire est présente. Et donc, du coup, on est... Et donc, peut-être ces personnes-là un peu rentrent un peu dans le contact avec ça, c'est qu'on est... On est influencé par des choses, on peut être conscient ou pas, mais tout de même, on est influencé. C'est peut-être un peu ça. Donc, du coup, la question de temps devient plus relative, peut-être.
Peut-être parler de ces deux personnages, puisque finalement, ils ont un rapport à cette à ce déplacement ou à cet isolement, enfin un lien à la maison qui est différent l'un et l'autre. Peut-être on peut commencer par Björn, qui finalement est peut-être celui qui s'inscrit d'une certaine manière dans les pas du taxidermiste et qui se met comme ça à recenser d'une certaine manière les espèces vivantes qui l'environnent. C'est une sorte de prise de conscience finalement de ce qui l'entoure, de tout ce qui vit autour de lui. Vous diriez les choses comme ça ?
Oui, bah il va, bah à la fois c'est un paradoxe parce que lui, sa stratégie, enfin c'est un peu, il découvre un peu l'impermanence et je pense qu'ils essayent un peu comme tout le monde de saisir quelque chose de concret ou de et lui, sa stratégie justement, c'est cette forme de taxidermie qui à la fois est très violent parce qu'on tue les papillons pour les observer. Et alors, est-ce qu'on les observe vraiment ? Je ne sais pas, mais c'est sa stratégie. Ou peut-être qu'il y a quelque chose de rassurant avec quelque chose qui finalement ne bouge plus. Tandis que Vera, elle est peut-être plus dans la... ils rentrent chacun dans leur monomanie, comme on le fait un peu. Lui, c'est les papillons, et elle, c'est la fascination de ce mal. Mais en fait... oui, je ne sais pas si ça a répondu à la main, mais ils sont tous impliqués en fait. Je ne sais pas, ils sont tous dans la problématique de l'émanence, de ne pas pouvoir sortir. On ne peut pas être l'observateur en fait. On est impliqué dans ce qu'on regarde. Et taxidermiste, on peut dire que c'est quelque chose de beau, mais on épingle des papillons morts. Après, c'est beau à voir, mais c'est plus vivant.
Et c'est le rapport, vous parlez du rapport au temps, on pourrait presque parler du rapport aux traces, finalement, parce qu'il y a un moment donné, dans le passage que vous avez lu, où il y a cette idée aussi des marais, de ce qui subsiste, de ce qui est en dessous, de ce qui est englouti, et de ce qui reste visible, ou de ce qu'on peut mettre au jour, d'une certaine manière. Vous diriez que c'est aussi ça, c'est finalement un livre de traces, les traces des anciens habitants de la maison, des traces de vie, des traces du passé. C'est un livre qui parle de ça aussi, selon vous ?
Oui, peut-être une sorte d'une découverte, qu'on fait partie de quelque chose, qu'on n'est vraiment pas isolé et qu'on fait partie d'une sorte de lignée de choses, d'événements et qu'on n'est pas isolé, en fait. Et qu'on est très peu de choses en même temps, qu'on est une sorte de... Enfin, qu'eux, ils vont découvrir qu'ils sont le résultat, ils sont tout ce qu'ils voient autour d'eux est le résultat de tous ceux qui nous ont précédés et qu'on dépend de ça. Et on dépend de cette nature est complètement dépendante de tous ces êtres qui vivent et qui étaient là loin avant nous. Et pareil avec le paysage qui est dépendant de ces mouvements glaciaires. Oui.
Peut-être pour en revenir à ce personnage du taxidermiste, vous disiez qu'il y avait très peu de choses sur sa vie personnelle finalement. Comment est-ce que vous avez travaillé autour de cela ? On pense à cette dame en verre. Presque une figure ou un motif du livre qui revient, qui passe comme ça, presque comme une ombre ou comme un spectre, je ne sais pas comment il faut le dire. Vous avez cherché à trouver des correspondances, vous avez simplement essayé de trouver des intuitions par rapport à cela. Comment vous avez travaillé pour boucher les trous de cette biographie ?
Oui, c'est vrai que sur elle, il y avait très peu. Enfin, Caroline, sa femme, il y avait très peu. Et je pense que ce qu'on fait, c'est peut-être quand on n'a pas l'information, ben c'est ce que font les auteurs, on invente, mais que ça passe par les images et que cette histoire du verre qui revient... Moi, j'ai l'impression, enfin, je suis plasticienne au début, donc je pense que ça passe beaucoup sur des images qu'on ne va pas forcément chercher consciemment, mais qui sont sur une sorte de suite de la lecture et que tout d'un coup, on voit un lieu où on voit Par exemple, le musée d'histoire naturelle, ça donne beaucoup à l'imaginaire de voir ces lieux incroyables. Et d'ailleurs, parce qu'il existe cette baleine au sud de la Suède, à Göteborg, et on peut le visiter. Et je l'ai visité, et ce musée est plein de restes de cet homme qui pourtant, on peut dire que c'est compliqué, mais il était quand même très très doué pour la taxidermie. Donc tout ça, on peut le visiter. Donc effectivement, j'ai beaucoup d'inspiration visuelle de son univers et de... Oui.
Peut-être encore une ou deux petites choses, et puis je demanderai peut-être au public s'ils ont envie de vous poser des questions. Il y a aussi quelque chose qui se joue autour de ce carnet de bord, il me semble. C'est-à-dire qu'il y a aussi une volonté pour eux, pour Björn notamment, de nommer ce qu'ils vivent, de nommer le présent, de nommer, je ne sais pas si on doit parler du réel. Et puis il y a en même temps, bien sûr, les mots latins, l'almanach, des autres axes en fait pour nommer le réel. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de ça, de cette volonté de nommer les choses, à la fois de les reconnaître, de les consigner, et en même temps de les réduire finalement à quelque chose qui est le langage.
Oui, oui, c'est très contradictoire en fait. Pour lui, enfin, parce que ça ne suffit pas, en fait, c'est comme s'il ne suffisait pas de les voir. Si ce n'est pas noté, ça n'existe pas. Mais c'est le paradoxe de l'ambition d'un auteur aussi. Est-ce qu'on est obligé d'écrire quelque chose et que pour eux, de nommer quelque chose afin de ne pas le perdre, ce qui est une illusion, parce qu'on va le perdre, mais au moins... En le faisant, on a peut-être un peu la sensation de, pour un petit instant, garder quelque chose. Mais après, c'est sûr que c'est aussi un souvenir. Et moi, j'ai un souvenir de, on dit en suédois, en anglais, de poisson rouge. J'oublie très, très vite. Je suis obligée de noter. Et un peu pour lui, c'est peut-être aussi ça, de noter afin de pouvoir y revenir, mais aussi peut-être de, comme tu dis, de... Il y a une violence, effectivement, là-dedans, de dire, voilà, ça et ça, j'ai nommé ça, c'est rien d'autre que ça, et puis voilà, quoi. Enfin, un peu...
peut-être encore une ou deux choses, parce qu'il me semble que ce qui fait partie aussi de la beauté du livre, c'est bien sûr la langue, presque le rythme, finalement, la façon dont... finalement l'écriture dilate le temps et en lien avec le temps, et comment est-ce que finalement il y a une forme de douceur qui s'installe et qui est presque liée au cycle des saisons, à une dimension de cet ordre. Alors là, c'est une traduction qu'on a là, mais comment vous avez travaillé vous sur le rite, sur la scansion, sur la façon dont la langue contient en elle-même aussi une avancée du temps, une répétition du temps. Peut-être vous pouvez nous parler de ça d'un point de vue plus technique ou plus littéraire.
Oui, moi, je suis très très lente, donc je l'écris, ça a duré je pense 10 ans dans le temps, et je pense que ça va faire 100 pages, donc ça veut dire que ça va faire 10 pages par an. Et quand on est tellement lente, on se lasse de son propre texte. Donc on est obligé de l'écrire pour que ça devienne supportable. Et c'est peut-être pour ça que ça se concentre de plus en plus. Parce que, donc s'il y a un rythme, je pense que ce n'est pas seulement uniquement parce que sinon, moi, je ne pourrais pas supporter le texte. Si chaque fois je le regarde, et je l'ai vu 10 fois déjà ou une centaine de fois, et donc j'essaye de creuser, est-ce qu'il y a autre chose que je n'ai pas découvert encore ? Il y avait vendredi une lecture très intéressante qui justement parlait de non d'enquête mais de quête, et qu'en fait on essaye dans l'écriture d'arriver à un point où justement on n'est pas dans le connu, où on touche à quelque chose d'inconnu qui ne nous appartient pas, et du coup on peut le lâcher. Et oui,
il y a quelque chose aussi, c'est souvent une sorte d'entre-deux entre le réel, l'imaginaire et notamment le rêve, qui me semble être très central dans le livre, pas forcément dans ce que vous avez lu là aujourd'hui, mais cette espèce de flou, d'entre-deux, entre le réel, le fantasme, ce qu'on rêve, la façon dont ça nous constitue. C'est aussi une manière pour vous d'appréhender le présent que d'appréhender ces autres dimensions du présent qui peuvent être très importantes dans notre rapport au monde, dans notre présence au monde. Le rêve, il est au cœur du livre aussi, il me semble.
Oui, je pense que encore vendredi dans la lecture, on disait quelque chose de très intéressant, c'était justement le danger quand on... Quand on se croit être dans la notion où on sait tout, en science par exemple, que voilà, c'est ça, on est objectif, et que le rêve et l'imaginaire nous obligent justement d'être peut-être responsables, parce qu'on ne peut pas se cacher derrière un regard, et qu'il est très important justement, il y a un savoir dans le rêve aussi, je pense à... Bruce Chatwin et son travail avec les aborigines par exemple, où là où le rêve c'est vraiment, c'est encore plus qu'un rêve, c'est une carte, on va naviguer avec les rêves, et que c'est là je pourrais pas citer de grands philosophes parce que j'y pense pas en ce moment, mais que c'est une, presque une question morale, je dirais, d'être en contact avec quelque chose qui n'est pas forcément hyper rationaliste, parce que c'est là où ça commence à devenir vraiment dangereux, ou de croire, parce que je pense que les dangers que lui, par exemple Malm, c'est qu'il pense en plus, il pense faire bon en quelque sorte, et quand il pense faire bon, c'est là où il va le faire le plus mal. Enfin,
Et finalement, ce rapport au monde, il est aussi déterminé par le rapport au vivant. Au vivant, au pluriel, bien sûr le rapport à l'animal, alors je ne sais pas si on doit dire le rapport à la part animale de nous-mêmes, mais c'est aussi une manière d'appréhender le réel différemment que d'être en lien avec le vivant, avec les vivants et peut-être avec la... Ouais, je dis la part animale, c'était un beau livre de Yves Bichet qui s'appelait La part animale, mais il y a quelque chose de cet ordre, non?
Oui, bah c'est ce que je veux dire, c'est qu'il a... Qu'il reste dans le malentendu, qu'à la fois qu'il fait pas partie en fait, qu'il est en dehors justement, que l'animal c'est là, lui ça va, et en même temps c'est un contraste, parce que j'ai pensé aussi à Jacques Cousteau récemment, parce qu'il avait eu cette espèce de réévaluation de ses films et tout ça, et que là c'est un peu pareil, parce que lui en même temps il aimait les animaux. Il est tué, mais il aimait beaucoup les animaux. Et surtout, il aimait les petits animaux, les petits oiseaux. Et il les aimait tellement qu'il avait fondé une organisation qui est devenue une sorte d'organisation pour préserver les oiseaux, et qui est par la suite devenue une très grande organisation en Suède. Et en même temps, il détestait les rapaces, parce que les rapaces sont méchants. Et donc, du coup, sa solution, c'était qu'il faudrait tuer tous les rapaces. Et effectivement, on a tué beaucoup de rapaces en Suède, et qui a créé une sorte de catastrophe écologique par la suite, mais par une sorte de... cette projection de à la fois de se sentir de l'extérieur et à la fois de projeter le soi dans l'autre anime, dans un animal ou un...
Oui, puis le fait de le maîtriser, enfin d'être au centre du monde d'une certaine manière, d'avoir une forme de pouvoir, non, vous diriez ça?
Oui, parce qu'il peut pas s'approcher de quelque chose, enfin ça c'est vraiment une maladie humaine, qu'on peut pas s'approcher de quelque chose sans se le soumettre. C'est presque dans le regard, c'est de dire voilà, je le saisis, je le tue, je fais quelque chose, mais je peux pas juste venir dans une rencontre égale, quoi.
Il y a deux figures dont on n'a pas parlé, c'est Fritsch et c'est Herzog. Peut-être vous pouvez en dire un mot. Qu'est-ce qu'ils représentent dans le livre? Comment vous entendez leur présence? Parce que c'est finalement encore une autre présence, les artistes, la littérature, les textes, la lecture. C'est une autre manière de voir le monde en relief ou en trois dimensions, je ne sais pas.
Oui, c'était des auteurs qui me fascinent. Herzog, c'est quelqu'un qui a toujours des sujets masculins, extrêmes, dans ses documentaires. et en même temps il s'implique dedans, donc il a toujours cette espèce de double regard qui me fascine et que je trouve problématique à la fois. Je pense notamment, bah là il n'est pas dans le livre, mais il y a cette relation qu'il avait à son acteur Klaus Kinski, qui était extrêmement violent et qu'il entretient cette relation en quelque sorte, ce qui m'a fascinée et en même temps je trouve et puis dans l'histoire de Frisch, c'était aussi une coïncidence parce qu'à Montauk, ce livre qui est un peu là-dedans, j'étais à Montauk et il y a effectivement une monstre qui a surgi à Montauk et je trouvais ça intéressant parce que il y a ce côté monstrueux de la fiction aussi, en quelque sorte. On est dans quelque chose de... Parce que moi aussi, je suis problématique. Je veux dire, moi non plus, je ne suis pas protégée de ces problématiques de Malm. Moi aussi, je saisis son histoire, je me prends des libertés, j'écris sur lui. Peut-être qu'il est enragé en ce moment, je ne sais rien. Je veux dire, ce rappel qu'on ne peut pas se... Il faut être conscient de ça, quoi, du choix qu'on va faire. Et ça m'intéresse. Je pense que Frisch et Herzog, c'est des gens qui s'intéressent à cette relation aussi. Oui. Ouais.
Je ne sais pas si vous avez envie de poursuivre la conversation, de poser une question peut-être à Maya, si vous avez envie de réagir à la lecture que vous avez entendue. Très sage.
Alors, peut-être que je peux dire quelque chose.
Bien sûr.
C'est que donc, ça a été traduit par Marie-Hélène Archambault et que ça a été... Enfin, c'est elle que vous avez écoutée parce que c'est sa traduction. Et aussi, donc, je vais faire un grand merci parce que ça, c'est grâce à ça qu'on est là, finalement, et qu'à la maison d'édition Agulo. Et que oui, on ne va pas parler longuement, mais ça a vraiment été aussi un travail. Oui, que la traduction, c'est vraiment un travail d'écriture. Et que, donc, voilà, vous avez lu Marie-Hélène Archambault.
Oui, parce que vous traduisez du suédois vers le français, mais vous ne vous êtes pas traduite vous-même.
Moi, j'ai traduit du français vers le suédois.
Du français vers le suédois.
Oui, mais dans l'autre direction, non. Sauf en binôme ou en exception, mais avec quelqu'un. Voilà.
Donc, les poètes que vous traduisez, ils nourrissent votre œuvre, ils ont nourri ce livre-là. Certains ont compté, sont des voix comme ça... qui existe, sans dire que vous vous rattachez ou que vous comparez ou que vous vous mettez dans les pas, mais des voix qui ont compté pour vous, des gens que vous avez traduits notamment.
Oui, P.O. Enquist, auteur suédois magnifique. J'avais eu l'occasion de le traduire, mais vers le français, donc c'est vraiment pas ma traduction, mais c'était très agréable de plonger dans ce qui est une écriture vraiment de fiction et documentaire, souvent, que j'apprécie beaucoup. Lui, oui, je pense que c'est un auteur important pour moi. Mais sinon, je pense que la traduction, c'est plus une façon d'apprendre à prendre les échéances, apprendre à terminer les choses, parce que ça, c'est quand même beaucoup de mal, sinon. Donc, oui. Oui.
Vous pensez que c'est votre rythme? Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez attaqué un autre projet.
Oui.
Vous écrivez plus vite ou vous pensez qu'au fond, c'est votre temporalité d'écriture? Alors peut-être pas 10 pages par an, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose qui se fait dans la longueur, dans le temps long.
Oui, ben je ne sais pas si je vais pouvoir choisir autrement, mais j'essaye d'aller un tout petit peu plus vite. Mais ne reste que ça va pas vite. J'y peux rien. C'est une sorte de... Mais c'est la monomanie aussi. Hein. C'est je peux pas... je sais pas. C'est comme si... Non, mais je suis très fascinée par les gens qui écrivent vite et beaucoup. Je sais pas comment ils font. C'est pas moi.
Mais ça ne me paraît pas être un très gros problème. Chaque écrivain a son rythme.
Oui, si on a envie d'éditer des livres, ça peut devenir un problème, mais j'essaye de faire la paix avec ça, parce que je n'ai pas l'impression de pouvoir choisir de toute façon, donc ce n'est pas la peine de s'uléter avec ça.
Écoutez, on espère qu'on n'attendra pas 10 ans, parce que c'est vraiment une belle découverte, ce petit traité de taxidermie, c'est chez Agulo, c'est signé Maya Tran, et on peut vous retrouver tout de suite là, à la librairie. Je suis sûr que les lecteurs auront envie de vous parler de manière plus directe et plus informelle, même s'ils n'ont pas pris la parole là maintenant. Merci beaucoup, Maya.
Merci à toi.
Merci à vous, et merci de votre écoute.